Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer, comme je l'avais suggéré, par quelques applications liées à la péricope précédente sur l'institution des diacres. Est-ce que vous avez quelques réflexions, partages ? Je sais qu'on a abordé quelques-uns la fois passée dans le cadre des échanges, donc. Mais bon. Y a-t-il du nouveau ?
Oui, la façon d'éviter que surgisse un conflit, quoi, hein, par exemple. Donc l'écoute, le dialogue, ça m'avait frappé quand même. Et l'écoute, on les écoute. Parfois on veut faire taire quand il y a des problèmes ou quoi, mais là non, on les laisse s'exprimer et puis. Et puis je trouvais que c'était valorisant aussi qui les amène eux-mêmes finalement à trouver une solution. C'est pas moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire, non. Ça, voilà, ça c'est une des choses qui m'avait frappé.
Je sais que j'avais vaguement, je crois, soulevé la question des critères de choix pour des responsables, en mentionnant donc étrangement. Dans ce cas-ci, où c'est plutôt matériel, on demandait quand même de hautes responsabilités, témoignages, vie spirituelle, etc. Donc on peut s'interroger, peut-être, dans nos applications sur quels sont les critères aujourd'hui dans nos églises respectives, etc. Est-ce qu'il ne faut pas hausser un petit peu le cran pour que ce qui est matériel soit inclus dans le spirituel, etc., quoi. J'avais songé aussi à la réflexion que je me faisais quand je vois le comportement des apôtres qui préfèrent déléguer plutôt que de se charger un peu plus. Et je me posais donc la question, mais est-ce que nous faisons ça, nous, dans nos vies ? Est-ce que nous établissons des priorités pour nos engagements, notamment chrétiens ? Ou est-ce qu'on accepte tout et on se laisse déborder, puis... Ou même on prend parfois le pouvoir hein, dans nos milieux d'église pour forcer un peu les autres à faire ce que nous on a envie qu'ils fassent, etc. Bon voilà, c'est toutes des questions qu'on pourrait se poser sur le choix des priorités personnelles et communautaires par rapport aux tâches et aux responsabilités. Et puis il y a ce que tu as dit, Marie-France, sur la réaction rapide des apôtres, ça je crois que c'est quand même très important. Que nous aussi, on ne laisse pas pourrir des situations, qu'elles soient d'ailleurs familiales, ecclésiales ou autres, mais pas entrer non plus dans le règlement de compte, mais en tout cas dans une parole libre sur la réalité, sur le constat de fait, quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a impressionné hein, que les apôtres qui ont pourtant une haute fonction soient prêts à entendre la problématique, à l'affronter plutôt que de faire l'autruche, et puis à arbitrer aussi pacifiquement que possible, parce que quand même, déléguer à toute la communauté le devoir de choisir cette personne, il fallait aussi être assez courageux, je pense, pour le faire.
Et accepter leur choix.
Et accepter leur choix, qui était quand même le choix de choisir la minorité, donc le clan des hellénistes, qui reprennent la main par rapport... au clan des hébraïsants, quoi. Donc c'était quand même assez époustouflant, je trouve. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez encore d'autres... Je n'ai pas été très prolifique, cette fois-ci, sur les applications.
Le fait qu'ils prient sur eux pour les envoyer en mission.
L'envoi, effectivement. Et d'ailleurs, parfois, on a un peu l'impression que dans l'Église, la prière est un peu le truc bouche-trou. Alors que là, c'est fondamental. Il y a une tâche, il y a un engagement, dans la durée. Et puis on passe du temps à prier pour ces personnes qui ont été choisies. Alors qu'on pourrait se dire, ben, finalement, elles ont été élues, donc le Saint-Esprit est derrière, laissons faire. On pourrait s'abstenir de prier, quoi, tu vois. Non, il y a de la place pour ça aussi, dans la manière d'officialiser.
Et puis avant, lui aussi. Et puis après. Ça aussi, personnellement, on voit souvent hein, que demander l'esprit quand on doit faire une grande décision et tout ça. C'est après que j'y pense. Ce n'est pas avant. Je sais qu'il faut le faire, mais quand on est dans l'action, ben, j'oublie. J'oublie carrément la prière à l'esprit pour me guider. C'est dommage parce que c'est très important. Je le sais, mais je l'oublie quand même.
Oui. Donc c'est une petite piqûre de rappel.
Oui.
Comme les vaccins. Ok, ok. Très bien. Bon, si tout le monde a épuisé son stock, on va avancer dans la suite. Donc, j'avais proposé qu'on fasse les versets 8 à 15. Je pense que c'est faisable en une soirée. D'autant que j'ai essayé de détailler au mieux le questionnaire pour vous accompagner dans recherche, réflexion déjà, etc. Alors voilà. Est-ce que Brigitte veut lire, puisque d'habitude c'est elle qui devance tout le monde.
Je pose là, c'est toi qui la devance.
Oui. Non, non, mais tu n'es pas obligé.
Ça cadeau,
mais les versets 8 à 15, nous lisons tous les deux dans la top, donc c'est sensiblement différent des autres versions.
Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Mais, sur ces entrefaites, des gens de la synagogue dite des affranchis, avec des Cyrénéens et des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne, et, comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquait ses paroles, ils subordonnèrent des gens pour dire. Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre lui. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, se saisirent d'Étienne à l'improviste et le conduisirent au Sanhédrin. Là, ils produisirent de faux témoins. L'homme que voici, disait-il, tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi. De fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus, le Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient dans le Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui et ils virent son visage comme le visage d'un ange.
Ben arrêtons-nous d'abord au verset 8, tout simplement. Mais avant ça, je voudrais juste, peut-être quand même, comme je fais d'habitude, introduire un tout petit peu. Donc, on vient de vivre l'élection des diacres, des 7 personnes choisies par l'ensemble de la communauté. Et comme je vous l'avais dit, cette élection des diacres introduit finalement le personnage d'Étienne, qu'on nous décrit d'ailleurs dans la péricope précédente comme un homme plein de foi et d'esprit saint. Et on sait déjà donc, par conséquent, qu'il est particulièrement charismatique, zélé, équipé pour le travail, qu'il soit matériel ou spirituel, puisqu'on a aussi soulevé la question des 2 diacres dans les 7 qui sont prédicateurs déjà, donc Philippe et Étienne. Alors nul doute, sans doute en tout cas, que c'est pour cette raison qu'il va devenir la cible, c'est parce qu'il enseigne qu'il va devenir la cible des attaques que nous allons découvrir dans notre texte de ce soir, et aussi dans la suite d'ailleurs des chapitres des Actes. Luc nous présentera un autre leader de cette minorité helléniste, hein, rappelons qu'ils sont tous les deux de la minorité, qui gère le diaconat donc de Jérusalem maintenant. Il s'agit de Philippe qu'on va découvrir au chapitre 8. Et donc ce focus sur les hellénistes, c'est sans doute une manière pour Luc de mettre en avant que c'est cette minorité-là, dont fait partie Philippe et peut-être même Paul de Tarse d'une certaine manière, puisqu'il est de Cilicie, il est probable qu'il est assez accoquiné avec les hellénistes, même s'il est pharisien, qui réalisera donc cette minorité, qui réalisera quelque chose qui peut-être ne vous a pas encore interpellé, qui réalisera l'ordre de mission que Jésus leur avait donné. C'est-à-dire, Jésus ne leur a pas dit « Faites croître l'Église à Jérusalem et débrouillez-vous. » Mais donc, allez. Et il était question d'aller en Judée, en Samarie, et aux confins des extrémités du monde, hein, si on se rappelle cette fameuse parole de Jésus. Donc, apporter l'évangile aux païens. Et finalement, qui va le faire en premier? Des gens comme Étienne, sauf que lui va mourir très prochainement. Mais Philippe, on le sait, puisqu'il a baptisé l'eunuque éthiopien, si vous vous souvenez un peu de l'histoire des Actes. Et puis, bien sûr, des gens comme Paul et d'autres qui vont parcourir le bassin méditerranéen et donc devenir les évangélistes attitrés de Jésus, hein, ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Donc ça, c'est quand même intéressant de souligner le lien qu'il y a entre les hellénistes qui ont adopté la voie messianique et qui vont devenir le fer de lance, finalement, de la prédication aux païens. Ce qui ne fait pas de mal à Paul ni à Pierre, d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, revenons à notre verset 8. Qu'est-ce que nous avons découvert dans ce verset? C'est quelque chose qui vous a frappé dans la description de ces activités?
Ben oui, parce qu'il opère des prodiges et des signes remarquables. Et au verset 5-12, on dit que beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres.
Exactement.
Mais déjà avant, au chapitre 2, verset 22, donc c'est le discours de Pierre. Mm-hmm. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Mm-hmm. Donc, Étienne...
dans la lignée.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en grec, c'est exactement les mêmes termes. Hein, c'est le même vocabulaire. Mm-hmm. OK, donc...
Et dans la suite, on verra vraiment que... qui reproduit Jésus, quoi.
Exactement. Mm-hmm. Autre chose qui vous frappe, parce que, bon, c'est quand même marrant, on vient de le nommer à un poste, et là, il n'est pas du tout question...
Oui.
Je ne sais pas si ça vous a frappé. Exactement. Donc, tout d'un coup, on met le focus sur un autre aspect d'Étienne et d'un autre mandat qu'il a, qui est de réaliser lui aussi, comme les apôtres. Ça, c'est très surprenant, effectivement. À la limite, tous les attributs des apôtres. Donc, on peut se dire quelle est la différence fondamentale entre quelqu'un qui est officiellement diacre ou évangéliste et puis un autre qui serait apôtre. Je rappelle d'ailleurs que le mot apôtre n'est pas une fonction, mais en grec, c'est tout simplement un envoyé. Voilà, c'est celui qui annonce. Il est envoyé pour annoncer. Donc, et alors, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez marrant aussi de voir que c'est les hellénistes qui vont plutôt annoncer et les autres qui vont rester à Jérusalem. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, que les apôtres sont coincés à Jérusalem jusqu'au 15e chapitre des Actes. Et que ce sont donc les non-apôtres qui vont partir à l'extérieur. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. OK, mais quoi qu'il en soit, revenons au verset. Donc, on découvre en tout cas une chose, c'est que, au travers de ces quelques mots, c'est qu'Étienne est un personnage extrêmement connu à Jérusalem, tout aussi connu que les apôtres. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui pose des signes messianiques, guérit des gens vraisemblablement, donne à manger à d'autres, etc., ne peut pas passer inaperçu dans une bourgade comme Jérusalem. Donc il est connu, éminemment charismatique. D'ailleurs, notre texte le redit ici avec le mot « plein de grâce » et « charistos » en grec, qui a donné « charisme ». Donc, plein de grâce, énergique, dynamique, puissant, dit le texte en grec. Hein. C'est-à-dire un gars qui en jetait, quoi. Hein. Donc, quand il était engagé, il est engagé, et ça fait du bruit. Et il accomplit donc ce que font la plupart des apôtres auprès du peuple. Donc, il continue, si vous voulez, à être en lien avec le peuple et pas avec l'Église. Il faut bien souligner ça. C'est pas que l'Église qui est concernée. C'est l'ensemble des habitants de Jérusalem. Donc il opère parmi le peuple, et comme les autres, il a la faveur du peuple. Et donc on va découvrir que malheureusement, ça va un petit peu changer. Ça vous va pour le verset 8?
Oui.
S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous interrompez, vous dites ce que vous pensez. Alors, on revient à notre fameuse synagogue au verset 9 des Affranchis. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je voulais quand même vous faire toucher du doigt quelque chose qu'on ne peut pas voir dans le texte en français. c'est qu'en grec, affranchi, c'est libertinon. Or, ce n'est pas du tout un mot grec. Voilà, donc c'est un mot emprunté au latin. Ce qui souligne bien, oui, c'est ça qui est étrange. J'ai lu ça en me disant, mais j'avais jamais fait attention à ça. Mais effectivement, ce n'est pas du grec pur. C'est vraiment un mot translittéré en grec qui montre bien qu'il s'agit d'anciens esclaves de l'Empire romain, sous le joug des Romains. Et ça rejoint donc ce que je vous avais dit la fois dernière, c'est qu'effectivement, en 63 avant Jésus-Christ, un fameux Pompée avait emmené avec lui tous les prisonniers de guerre. Donc il y avait une bisbouille, hein, je ne vais pas retracer l'histoire, mais il y avait une bisbouille entre deux frangins juifs qui voulaient le pouvoir pour eux seuls, sur le petit territoire d'Israël, et malheureusement, un des deux a fait appel aux Romains. Et comme ça s'est mal terminé, la plupart des combattants, de ceux qui défendaient Jérusalem pour empêcher les Romains d'y entrer, ont été déportés. On parle même de, dans les récits historiques, de 10 000 morts. 10 000 juifs tués. Parce que les Romains ont eu la patience d'attendre. Et ils ont fait la même chose qu'avec Pompée, ils ont fait la même chose qu'à Massada. Ils ont construit le long des remparts. Donc ils profitaient du Shabbat pour allonger leur, comment on va dire ça, leur rampe, vous voyez, leur rampe en terre, sable, bois, tout ce qu'on veut, pour un jour pouvoir enfin sauter le mur et entrer dans... Parce qu'ils étaient réfugiés dans l'enceinte du temple. Vous voyez, donc la forteresse, ce qu'il y avait de plus haut à Jérusalem. Ils s'étaient tous retranchés là-dedans pour empêcher les Romains d'y entrer, de piquer. Et Pompée, très malin, excusez-moi, c'est pas un cours d'histoire, mais Pompée, très malin, a donc, chaque jour de Shabbat, le septième jour, continué à construire son édifice, sachant que les autres ne répliqueraient pas. Parce qu'ils observent le Shabbat. Justement, on ne peut pas faire de travail, on ne peut pas faire la guerre, etc. etc. Donc, ils finissent par investir le temple, et Pompée magnanime ne touchera pas au trésor du temple. Et il laissera quelques personnes, quelques gens du sacerdoce pour s'en occuper, refusant donc de piller Jérusalem, ce qui est assez étrange pour les Romains. En principe, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils faisaient. Voilà, bon, revenons à notre texte et fermons la parenthèse du cours d'histoire. Donc, à l'évidence, un mot d'origine latine. Ces affranchis, alors il faut aussi comprendre que les affranchis dans la société juive n'ont pas une bonne réputation. C'est-à-dire, alors je ne sais pas la raison fondamentale, mais les textes disent qu'ils sont classés en dessous du statut de prosélyte. Et donc le païen qui se convertit au judaïsme est mieux placé que celui qui revient à Jérusalem en tant qu'affranchi. Alors, est-ce que c'est lié peut-être à la profanation que peut représenter l'esclavage dans l'Empire romain, c'est-à-dire le fait que quand tu es femme, tu es peut-être bien souvent utilisée plutôt que servante, etc., etc. D'ailleurs, beaucoup de juifs se sont retrouvés dans les bordels de l'Empire, hein, faut le savoir, ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Donc les grandes déportations romaines, c'était souvent l'humiliation de tout, de toute la population, femmes comprises. Donc voilà. Alors, on peut se demander, une fois qu'on a compris tout ça, pourquoi ce sont uniquement des membres de cette synagogue qui s'attaquent à Étienne. Bon, par exemple, parce que le terme, alors, je ne sais pas ce que vous avez en français, vous, mais le terme en grec, c'est que se levèrent, dit le texte, se levèrent des hommes masculins, hein, se levèrent des hommes. Et cette expression, ça, en grec, ça rejoint soit la prise de parole publique, donc on se lève pour faire taire les autres et on prend la parole avec autorité, ou alors...
C'est même pas des hommes, c'est quelques hommes.
Oui, mais on suppose.
Mais c'est
peut-être tu as raison, c'est pas Andras non plus. Oui, quelques-uns, c'est juste. Bon, on suppose que c'est des mecs, hein, en général. qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, j'ai perdu mon fil, voilà. C'est pas grave.
C'est nous, on a se mire à discuter.
C'est le
oui.
C'est
le En tout cas, ça marque une certaine hostilité, une certaine opposition. Ils ne se lèvent pas juste pour dialoguer, faire ami-ami. Ils se lèvent parce qu'ils ont quelque chose à régler avec ce fameux Étienne. Et donc, je me posais la question, je pense que vous l'êtes peut-être posé, mais pourquoi ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi pas justement les Hébreux, les Hébraïsans, qui, eux, auraient peut-être plus de raisons d'être carrés dans la règle et d'attaquer Étienne ? Donc, j'ai un petit peu creusé la chose. Et nous nous rappelons tous ce qu'on y a dit la fois passée, c'est que c'est une synagogue hellénique. Il n'y en a pas 36 000 apparemment à Jérusalem. Donc on peut supposer que Étienne y est connu, peut-être même membre de cette synagogue-là. En tout cas, certains commentaires disent qu'il en était, mais je trouve qu'ils ne donnent pas la preuve de cela. On n'a pas de preuve historique autre que le texte des Actes pour dire qu'Étienne était réellement participant, membre de cette communauté-là. Ceci dit, le fait qu'il y ait accès, comme tout juif peut avoir accès à n'importe quelle synagogue du monde, encore aujourd'hui, d'ailleurs si tu es de passage dans une synagogue, on va vite venir te dire, dites vous ne voudriez pas lire un extrait de la Torah, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que dans chaque synagogue, on accueille celui qui passe et on lui donne une part du service à faire. Voilà, ça fait partie des conventions. Donc on peut imaginer que même si Étienne n'était pas un membre attitré de cette communauté, chaque fois qu'il y est passé, on lui a donné la parole. Parce que derrière ce qui est dénoncé, il n'y a pas que du mensonge. Cet homme enseigne. Cet homme dit des choses qu'il croit fermement, avec conviction. Et on peut comprendre que ça finisse par heurter certains, en tout cas. Donc, c'est assez logique de penser qu'il a pu avoir un accès privilégié à cette synagogue, même si le texte des Actes est assez muet sur la question. En tout cas, ça expliquerait l'hostilité des hellénistes et la violence de l'attaque, finalement, pour ceux qui ont pu être les auditeurs d'Étienne dans ce cadre, dans cette synagogue-là. Même si, je le répète, même s'il n'était qu'un enseignant de passage, ou même s'il était simplement non-enseignant, mais participant à l'une des rencontres comme officiant, puisque je viens de souligner que n'importe qui peut être invité à prendre la parole, à lire la Bible hébraïque publiquement. Donc, après ça, il faut peut-être se demander, mais c'est quoi alors les thèmes de discussion, puisqu'on nous dit qu'ils discutent pour ne pas dire disputent, les thèmes de discussion entre Étienne et ces personnes-là, pour que ça finisse mal. Il fallait que ce soit quand même des thèmes assez gratinés. Et vraisemblablement, c'est ceux qu'on va retrouver la fois prochaine dans le discours d'Étienne. Ça ne doit pas être bien différent de ce qu'il raconte devant le Sanhédrin. Donc, comme on le verra plus tard, lui, il parle de ce qui aurait dû être la règle, dans le discours, je devance un petit peu, mais du style, la vraie vie authentique, c'est le nomadisme. La vraie vie authentique d'Israël, c'est le non-attachement à un lieu. Et de là, il saute sur le caractère transitoire du temple. Le temple n'aurait pas dû être. Le tabernacle aurait dû subsister et se déplacer sur le territoire d'Israël, là où le besoin s'en faisait sentir. D'ailleurs, si vous relisez l'Ancien Testament, vous verrez que le culte du Dieu n'a pas toujours eu lieu à Jérusalem. Il a eu lieu dans différents endroits sur le territoire d'Israël pour des tas de bonnes ou mauvaises raisons, à commencer par l'Arche de l'Alliance qui a circulé, etc., comme on le sait. Donc, il leur rappelle ça, et puis il leur dit, voilà, ben, puisque c'est ainsi, c'est aussi peut-être que le caractère du culte est transitoire, c'est-à-dire le culte tel que vous l'avez forgé maintenant à Jérusalem a peut-être un caractère complètement transitoire pour le judaïsme. Et donc, et c'est sans doute ce qu'il enseigne aussi, puisqu'on le découvrira plus tard, il pense qu'il faudra abolir à un moment donné les rituels du temple. Conserver le temple, mais enlever les sacrifices, au profit d'un nouveau culte plus spirituel. Voilà les thèmes.
Je peux t'interrompre ?
Oui, oui, oui. quelque chose que je ne comprends pas là. Tu viens de dire que Dieu ne voulait pas le temple à Jérusalem.
Fixe. Mm.
Qu'est-ce qu'il veut dire alors dans l'Ancien Testament quand il a dit « Vous viendrez m'honorer dans le lieu que j'aurai choisi » Ça ne fait pas notion de Jérusalem. À plusieurs reprises, il dit « Vous irez, vous viendrez m'adorer dans le lieu où, que j'aurai choisi ».
Et tu découvres après, avec Jésus, que... il n'y a plus de lieu.
Ah non, ça bien sûr.
Non, mais c'est pour
mais
te dire.
En attendant que Jésus arrive, Jérusalem, le temple, n'était pas le plan de Dieu ?
En tout cas, le tabernacle était. Donc la tente du tabernacle, le fait que le tabernacle puisse se déplacer n'importe où, même en dehors du territoire d'Israël, puisque ça a commencé en dehors du territoire.
C'est quand même Dieu qui ordonne la construction du temple, qui en donne les plans.
Oui, mais n'oublie pas ce qui a précédé, alors.
Ah oui.
Qui a voulu ? David voulait déjà.
Oui.
Et Dieu a pensé que ce n'était pas une bonne chose que ce soit lui,
non, mais
le grand architecte. Donc c'est Salomon.
Oui.
Salomon qui fait construire ce temple. Je pense qu'on se rend souvent compte que Dieu finit par adopter... pas le point de vue des hommes, mais en tout cas d'entériner ce que les hommes font comme choix. Par exemple, la royauté, oui. C'était pas non plus.
Mais c'est clair quand même ça avec le roi. Ça c'est clair que Dieu n'était pas d'accord, ça. Que c'est moins clair avec le temple pour moi.
Parce que à Jérusalem, si tu veux, bon, avant le temple, posons-nous la question. Avant la construction du temple à Jérusalem, où était le culte ? Où se tenait le culte ? Était-il même public ? En tout cas, on sait archéologiquement aujourd'hui que dans l'enceinte de la cité de David, il y avait un lieu avec un autel. Donc, dans l'enceinte de ce qui était le palais, si vous voulez, du roi, il y avait un endroit pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Étrange. Alors, moi, je pense que... alors, ça serait intéressant que je creuse quand même ta question sur est-ce que Dieu est à la manœuvre et avait déjà donc dans sa volonté ce choix.
Ça se lit à plusieurs reprises dans ce lieu que j'aurais choisi. Je ne sais plus où exactement.
Mais est-ce que ça pourrait pas être la tente du tabernacle, alors, tu vois ? Est-ce que ça pourrait être le lieu ? Est-ce qu'on pourrait considérer que la tente... Moi, mon souvenir, c'est que quand David propose de faire le temple, Dieu n'est pas chaud à la base.
Non.
Et pas que chaud que ce soit lui. Mais c'est pour ça que je cherche. Mais...
c'est parce que c'était un homme de sang, un homme de guerre.
C'est la raison qui est donnée.
Tu ne pourras pas me construire parce que tu es un homme de guerre.
Tu as du sang sur les mains.
Mais c'est ton fils Salomon qui le fera. Alors... c'est vrai que peut-être...
Mais je t'invite, comme moi, à revoir ça, à rechercher pour la prochaine fois une réponse adéquate.
Mm-hmm. Et puis, perso, je ne suis pas convaincue. Il y a la prophétie de Nathan, de la descendance de Jésus, de la venue de Jésus.
De toute façon, c'est ça qui me fait penser que si Dieu a accepté l'idée que ce soit à Jérusalem, c'est davantage pour entériner le choix des hommes et limiter les dégâts, et continuer, donc... à faire subsister l'idée de sacrifice expiatoire. Ouais. Mais son vrai projet, c'est quand même l'agneau pascal.
Ouais.
Donc son vrai projet, c'est quand même un salut pour tous, si je puis dire, offert au monde entier et aux pêcheurs en particulier. Donc on pourrait bien comprendre l'idée d'Étienne que le culte tel qu'il est, notamment au 1er siècle, est transitoire. Parce que si on vise l'annonce aux non-juifs et qu'on n'attend pas de ces non-juifs qu'ils deviennent juifs, qu'ils embrassent le judaïsme, alors il faut bien que le culte revête une autre forme. Et puis...
Est-ce que tu crois qu'ils pensent déjà à cela, à ce moment-là ?
Qui ?
Mais Étienne. Ça viendra plus tard avec Paul, non ?
Il me semble être un précurseur.
On va voir dans le discours qu'en tout cas c'est un précurseur, ça c'est clair.
Mais c'est ce que tu avais l'air de dire, c'est que c'est justement ça qui les fâche.
Bien sûr.
Si tu dis que le temple est moins important, pas si important que ça, déjà rien que ça, c'est pas en soi un blasphème. Mais si on dit...
Ça heurte. Hein.
Oui, ça heurte, c'est clair. Ouais. Ça heurte surtout qu'à l'époque, c'est quand même quelque chose de sacré.
Et puis,
le temple, le culte au temple...
Comme tu nous as déjà dit, c'est pas seulement religieux, c'est aussi économique, ce temple.
Bien sûr, donc, ça c'est l'autre aspect.
Il y a beaucoup... c'est ce que j'ai relevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de...
Il y a des enjeux colossaux.
Beaucoup d'enjeux, là.
Quant à la loi, là, il y a quand même une grosse partie de mensonges de la part des accusateurs. Hein. Dire qu'il est contre la loi ou qu'il critique la loi de Moïse ou je ne sais pas trop quoi.
Et quand il y a eu la séparation des tribus entre les 10 tribus et du nord et du sud, ceux du nord ont voulu faire exactement la même chose qu'à Jérusalem. Ils ont voulu aussi avoir leur lieu saint et leur... leur temple, pas leur temple, mais ils voulaient aussi sacrifier là. Et là, ils ont été repris de voler. C'est vraiment intéressant à faire des recherches. Aller adorer ailleurs qu'à Jérusalem, c'était risquer d'elle.
Ça, c'est clair. Ouais.
Donc, c'est bizarre que Dieu, dans sa grande sagesse, sachant tout, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, il a quand même divisé l'histoire de l'homme, de l'humanité, par des périodes où soit il donnait accès aux volontés de l'homme, entre guillemets, et notamment la royauté, mais en même temps, il avait des buts bien précis à chaque période, pour finalement toujours arriver à Christ encore maintenant.
Oui.
Pas seulement Christ quand il était sur terre, mais Christ est depuis toujours, depuis toute éternité, et il le sera toujours. Mais tout passe par lui et converge vers lui. Et c'est ça qui est parfois bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas été directement au but?
Ah oui, ça aurait été plus simple. Pour nous, en tout cas.
Ça aurait été drôlement provoquant. Non,
mais en fait, si tu vois ce qui est étonnant avec Dieu, c'est sa capacité d'être patient, mais quand même de viser le transformisme, c'est-à-dire quand même viser que le mal devienne bien, même pour la royauté. Parce que quand même, le Christ, on l'appelle bien roi des rois, donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est revenu à son plan initial qui est « seul Dieu est roi ». Et en plus, il est le roi des rois. Le roi de tous. Ok. Mais bon, donc on va essayer d'examiner cette question, effectivement, du temple, sous l'angle du projet de Dieu. Ça pourrait être intéressant. Et peut-être même qu'on va se rendre compte que je dis n'importe quoi. Ouais, pourquoi pas,
Tu vas être limpide.
Bon, oui, nous sommes peut-être en train d'apprendre quelque chose que ça m'intéresserait.
Ok. Alors, on va continuer. C'est une bonne parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on en est? T'es là, non, non. Donc, verset 10, c'est ça? Donc, on nous décrit les hellénistes de cette synagogue comme incapables de s'opposer à la discussion, aux arguments d'Étienne, à s'opposer notamment à sa sagesse, apparemment. Et à l'esprit qui marquait ces paroles, dit le texte de la Tobe. Alors, on peut se demander, il n'avait pas la force de résister à quoi, fondamentalement? Vraisemblablement, à ce que je viens de dire. D'un côté, la sagesse d'Étienne, sa capacité de raisonnement, d'argumentaire, mais aussi les arguments inspirés par l'Esprit Saint, parce que c'est quand même ça dont il est question. Donc non seulement il a ses compétences en tant qu'orateur, évangéliste, enfin tout ça, il a une connaissance, on le verra dans le discours par exemple, une connaissance de l'histoire d'Israël, de son texte, et on sent, je le dis déjà maintenant, on sent dans le discours d'Étienne la version hellénique du texte biblique et pas la version hébraïque. Hein. Donc voilà. Ça, évidemment, on ne peut le voir qu'en grec. Hein. Donc, il a une grande connaissance, une grande capacité, et ses arguments sont finalement irréfutables. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas le moyen de réfuter les arguments d'un point de vue biblique, ou du point de vue en tout cas du judaïsme. Et c'est ça qui va entraîner l'animosité. Si jusque-là ils étaient simplement opposés, ils avaient envie de régler des comptes avec lui, maintenant ils sont en colère, ils sont énervés par le fait qu'ils sont perdants dans la discussion. Or, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique en Israël et encore aujourd'hui ? C'est que quand tu fais de l'enseignement, de l'étude, eh ben, c'est un jeu de questions-réponses. Mm-hmm. Et donc, même si la question est compliquée, tu vas essayer de trouver une réponse compliquée. Ou relancer une question compliquée en réponse à la question compliquée. C'est ça.
Ça, c'est juif, ça, non ?
Tout à fait. Et donc là, ben, les autres, ils sont nulle part dans leur judaïsme. Ils sont incapables de dire un mot à Étienne, de dire « Mais non, t'as pas raison, et pour telle raison, voilà, le Deutéronome dit que... Voilà. » Mm-hmm. Tout ça, niette. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Puisqu'ils ont perdu la manche. Alors, il faut bien se dire qu'après le verset 10, il y a de nouveau un temps d'arrêt. C'est-à-dire, la discussion est terminée, Étienne est rentré chez lui, et les autres chez eux. Et là, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils complotent.
Ils complotent. Alors, le terme est très fort, hein, quand même. Alors, je ne sais pas en français ce que ça donne, soudoyer ou suborner, mais si on va dans l'analyse aussi bien du grec que du français, soudoyer, c'est s'assurer à prix d'argent, hein, d'une manière immorale, le concours de quelqu'un. Donc, ça veut dire, j'ai acheté quelqu'un, je lui ai graissé la patte pour qu'il dise ce que moi, je lui ai dit de dire. D'accord ? Ou bien suborner. Bah, suborner, c'est la même signification pour ce verbe grec. Suborner, c'est corrompre un témoin, ce qui est pire. Et il y a une question d'argent là aussi. Donc derrière l'utilisation du grec, il y a l'idée, eh bien, puisqu'ils n'ont pas réussi à trouver des arguments fondamentaux pour s'y opposer, ils ont payé des gens.
Suborner, c'est pas plutôt la position de quelqu'un qui...
Non, subordonner, oui.
Oui.
Mais...
Suborner,
c'est vraiment utiliser quelqu'un, corrompre quelqu'un.
Avec de l'argent.
C'est... Avec de l'argent, de préférence. Ou un cadeau quelconque, un demi-chaud, peu importe. Et on peut se demander pourquoi et comment ça se fait que des juifs acceptent d'être de faux témoins. Parce qu'on verra que ça a quand même une répercussion fondamentale dans le judaïsme. Pourquoi c'est comme ça ? Pour les mêmes raisons qu'on a vues depuis le début des Actes. Les gens sont pauvres. Les gens ont besoin de pognon. Et donc, bah oui, ils arrivent à acheter des gens. C'est pour ça que c'est quelques-uns, hein, comme ils disent, c'est-à-dire l'anonyme. On achète n'importe qui pour pouvoir obtenir un faux témoignage. Et ceux qui sont interpellés pour le faire l'acceptent parce qu'ils ont besoin pour survivre d'un minimum d'argent. Il soudoie donc des hommes en leur dictant ce qu'ils devront dire. Si vous avez fait attention, voilà les arguments, oui, vous allez dire, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, qui évoquerait, donc dans les arguments, qui évoquerait des paroles blasphématoires de la part d'Étienne contre Moïse et Dieu, dit le verset. On verra que c'est un peu différent plus tard. Donc, c'est-à-dire contre ce qu'il y a de plus sacré pour les Juifs, Moïse et Dieu. Tout ça à cause de sa critique du Temple, hein, ça part juste de cet élément. C'est-à-dire, finalement, si je suis blasphémateur envers Moïse et envers Dieu, c'est une faute extrêmement grave. Et d'après vous, ça mérite quoi ? Oui ? Condamnation à mort. Si c'est prouvé, s'il y a des témoins, il suffit qu'il y en ait deux qui disent la même chose, tu risques effectivement la peine de mort. Pour les autorités, vous pensez bien, c'est une aubaine. Hein ? C'est une aubaine puisqu'ils vont pouvoir l'inculper et finalement protéger ainsi leurs intérêts économiques. Ça, c'est ce que tu as suggéré tout à l'heure. C'est-à-dire, on sait que la santé économique de Jérusalem dépendait essentiellement du temple et de son culte, justement, sacrificiel. Alors, si on peut régler son compte à quelqu'un qui dit que le temple, c'est pas grand-chose, où ça sert plus à grand chose, à part louer Dieu, ben, tu fais tomber tout l'aspect économique. C'est-à-dire que ceux qui s'en mettaient plein les poches, notamment les Sadducéens, vont devoir aller au chômage et faire autre chose, en tout cas. Mais ils n'en ont pas vraiment envie. Donc, je ne sais pas si ça vous a fait penser à quelque chose, tout ça.
Ben, c'est le même procès unique qu'avec Jésus. Hein.
Exactement.
Oui, on a acheté Judas.
Donc, on achète quelqu'un, on lui fait dire des trucs qui ne sont pas tout à fait vrais, et on retrouve donc ces accusations portées envers le maître, notamment à propos du temple, hein, ben, même argumentaire. Oui. Hein, il a dit qu'il allait tout détruire ici. Hein.
Oui, et
on
le dit plus.
On trouve ça au moins dans 3 évangiles. Oui. Pas dans Luc, étrangement, mais en tout cas dans Matthieu 26, ou dans Marc 14, ou dans Jean 2, on trouve la même idée que le temple est transitoire, que le temple ne doit pas nécessairement être le lieu par excellence d'un culte rendu à Dieu. Sous-entendu qu'on peut rendre un culte à Dieu n'importe où. Or, on sait que rien que sur le territoire d'Israël, il y a quand même une bataille entre Samaritains et Juifs, n'est-ce pas ? Parce que les Samaritains offrent des sacrifices sur une montagne qui est très loin de Jérusalem, en réalité. Ils rendent un culte à Dieu comme ça. Bref, ok. Donc, on comprend mieux peut-être pourquoi le Sanhédrin va s'emparer de cette histoire, puisque son en porte-à-faux au niveau économique. S'il se passe quelque chose qui va dans le sens d'Étienne, on est foutu quelque part. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? C'est la suite logique, hein, j'ai envie de dire. Après avoir soudoyé des gens, dressé une liste de propos blasphématoires d'Étienne qui n'ont jamais existé contre Moïse et Dieu, ils ameutent, dit le texte. Alors, je ne sais pas, dans vos autres versions.
Ils émurent,
oui. Bon, nous dans logique. La tobe, on a « ils excitèrent le peuple », etc. En fait, c'est quoi ?
Oui, c'est
on est devant de la propagande, hein, tout simplement. C'est-à-dire un discours de propagande étayé de quelques faux témoins, 4, 5, 6 peut-être, à qui on a dit exactement ce qu'il allait falloir dire, et ils racolent alors le peuple en disant « ah, ben nous, on a des témoins ». Nous, on sait qu'il y a des témoins qui ont entendu Étienne dire telle chose, etc. C'est ignoble, etc. Donc, ils font un ramdam pas possible. Et le texte dit bien « auprès du peuple, le petit peuple de Jérusalem, le même peuple qui était favorable à la voie messianique, commence à retourner sa veste parce qu'on lui démontre, avec pieux mensonge, évidemment, que c'est pas tout à fait ce que dit la voie messianique. La voie messianique veut détruire le temple.
C'est encore la même chose, parce que pour Jésus aussi, le peuple qui l'acclamait
exactement.
Le dimanche avant et qui retourne sa veste.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça ?
On manipule les foules comme
on
veut.
On peut dire qu'on est tous un peu versatiles. Hein. Il suffit de nous dire le truc qu'on a envie d'entendre ou au contraire dont on a horreur d'entendre pour que ça change complètement. Suite, ouais. Et donc, c'est vrai, tu as raison. Tout comme dans le cas de Jésus, le hosanna d'un jour est devenu le amor du lendemain, crucifié. Voilà. Bon, donc il ne faut pas grand-chose pour retourner une foule, pourtant favorable. Alors on ne dit pas que c'est la totalité de Jérusalem, évidemment, qui a retourné sa veste, mais en tout cas suffisamment que pour faire en sorte que ça aille beaucoup plus loin, en définitive. Et alors, donc, on a trois... La propagande s'adresse à 3 publics, si vous avez bien vu. Le peuple, le petit peuple, qui est facile à retourner, et puis les anciens et les scribes. Et je vous avais posé une question, mais pourquoi on ne mentionne pas les grands prêtres là-dedans ? La troisième catégorie du Sanhédrin, la première même, devrais-je dire.
C'est pourquoi ? Parce que justement, c'est ceux qui dirigent un peu le point de vue économique, le temple.
Non, alors disons que...
Parce qu'il y a une multitude qui s'était...
Oui, il y a une sacrée...
Comment j'ai pas entendu ce que...
Il y a une multitude de prêtres qui suivent quand même la nouvelle voie, quoi, tu vois. Donc, on essaye auprès du peuple, et puis on essaie... Alors, les anciens, c'est quand même, j'ai presque en dire, le conseil d'administration du Sanhédrin. Ceux qui sont un peu les dirigeants du Sanhédrin. Il y a un petit groupe là-dedans parmi les 70 qui sont un peu le bureau, si vous voulez. Donc on essaye de les convaincre tout comme on va essayer de convaincre les scribes, c'est-à-dire ceux qui enseignent, ceux qui savent écrire, ceux qui sont instruits, etc., qui sont les trois classes du Sanhédrin, d'accord ? Donc les grands prêtres d'un côté, les anciens et les scribes. Et on ne mentionne pas, enfin Luc ne mentionne pas les grands prêtres, tout simplement parce qu'ils sont depuis très longtemps hostiles à cette nouvelle voie, déjà du temps de Jésus.
C'est eux qui sont à la manœuvre.
Bon, ils étaient à la manœuvre pour la mort de Jésus, pour essayer de coincer les disciples, et maintenant ils sont à la manœuvre contre les apôtres depuis le début des actes, on le voit en tout cas, et leur fameux mouvement messianique. Hein. C'est-à-dire qu'il y aurait un nouveau judaïsme tout d'un coup, qui prône, soi-disant, hein, qui prône, on fout la loi de Moïse au bac et on démolit le temple. Alors évidemment, une fois que tu as réussi à convertir tout le monde à cette propagande, bah c'est assez facile de gagner un procès au Sanhédrin. Et un procès dont on sait tous que... Enfin, eux savent tous que ça se terminera par la mort du gars, quoi. Hein. Donc on voit bien la manœuvre. Donc le soudoiement du départ est quand même gravissime, puisque quelque part c'est pour aboutir délibérément à la mort de quelqu'un qui pourtant n'est pas responsable de ce qu'on dit qu'il a dit. Donc en clair, il fallait gagner tout le Sanhédrin pour faire condamner Étienne et par ricochet, évidemment, le mouvement tout entier. Parce que si tu déstabilises, tu tues un des leaders officiels visibles à Jérusalem, ça veut dire que ce qu'il annonce, c'est ce qu'annonce le mouvement messianique. Donc on fout aussi en l'air ce mouvement, et vraisemblablement on l'aurait persécuté à mort, ce mouvement. D'accord ? Et la suite du texte, alors je ne sais plus trop où j'en suis moi-même, les ameutères, et le verbe grec pour se saisir d'Étienne, je ne sais pas ce que vous avez dans vos autres versions, si quelqu'un a une version différente.
Saisir.
Ok. Alors le grec dit quelque chose d'assez fort. Alors d'abord le grec dit « étant survenu ». Donc je vous rappelle, Étienne n'est plus là. Étienne est rentré tranquillement chez lui, manger un casse-croûte, etc. Eux ont profité de fignoler leur petit complot. Et tout d'un coup, ils se pointent. Alors on ne sait pas où, quand, comment, mais ils se pointent. Alors, la taupe dit à l'improviste, elle est très proche de ce que le grec veut rendre. Il s'agit de fondre sur quelqu'un.
Ils l'enlevèrent chez Jarbi.
Ok.
Ils le saisirent et l'emmenaient.
Donc, ils arrivent à l'improviste. Ils ne laissent pas le temps de la réaction. Donc, fondre sur quelqu'un, c'est s'approcher de quelqu'un de telle manière qu'il ne puisse pas réagir et qu'il ne puisse pas s'enfuir non plus, s'échapper. Donc, on pourrait dire, ils viennent délibérément dans l'intention de l'arrêter par surprise, pour qu'il n'ait pas le temps d'ameuter, lui, des petits copains, ou de disparaître. Hein. Puisque, bon, quand même, c'était un jeu de cache-cache, parfois, avec la nouvelle voie. Notamment, Jésus avait montré l'exemple, disparaissant, apparaissant, etc. Donc, l'intention est donc malveillante. Ce n'est pas une bonne intention. On n'arrive pas chez lui pour lui dire, tiens, on voudrait bien reprendre la discussion. Non, non, on vient chez lui dans l'intention que ça finisse mal pour lui. Tout, d'ailleurs, comme l'organisation de faux témoignages, qui était aussi une malveillance fondamentale. Et d'ailleurs, les versets 13 à 14 vont nous le redire. Ils ont produit des faux témoins. Ils produisent des faux témoins, dit le texte. Hein. Oui, la taupe dit, je ne sais plus comment on le dit dans la taupe, je crois que c'est aussi ça, produisent, je crois. Et en grec, c'est ils postèrent. Donc vraiment... comme des soldats, quoi. Ils postèrent des faux témoins. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, alors ? Est-ce que ça vous paraît logique pour le judaïsme ? Un procès ficelé d'avance ?
Non, c'est contre la loi.
C'est contre la loi. Ce qui se passe là est tout à fait, mais incroyablement contre la loi. C'est d'ailleurs eux qui devraient être condamnés pour avoir projeté ce type de procès d'arrestation et de meurtre. Donc, il risque, au fond, le gros, puisque on découvre dans Deutéronome 19, dans les versets 18 à 19, que si tu es reconnu comme faux témoin, c'est l'exécution capitale. Donc, on te lapide, on te donne la mort que tu aurais voulu donner à un autre.
cas.
Tu veux bien redonner la...
Deutéronome,
oui.
Chapitre 19.
19.
Versets 18 à 19.
D'accord, merci.
Maintenant, tu sais, c'est enregistré. Donc, on peut... Donc, vous avez peut-être observé, puisque c'était dans les questions, que l'accusation qui est délivrée en 13-14 n'est pas tout à fait la même qu'au verset 11. Dans le verset 11, on disait « Ah, il a dit des choses contre Moïse » ou « Il a dit des choses contre Dieu ». Ici, ils font plutôt référence au lieu saint, première accusation, et la loi. Alors,
ils sont sanhédrin cette fois-ci.
Oui, donc c'est un petit peu plus sérieux. Peut-être qu'il y a une question d'argumentaire pour convaincre un peu plus le sanhédrin. Mais essayons de comprendre ça. Pourquoi ça a changé un tout petit peu? Je dis bien un tout petit peu, parce que fondamentalement, c'est quasi la même chose. D'abord, contre le temple. Pourquoi commence-t-il par cet argument? Alors qu'il aurait été plus simple de dire Moïse ou Dieu. Parce que là, c'était canon, quoi. Hein, t'as dit des cochonneries sur Moïse. Ben, mon vieux, c'est fini. Tu crois pas en la loi? Ben, c'est fini, quoi. Hein, okay. Donc, contre le temple, donc, l'argument économique dont on a parlé tout à l'heure, contre le culte divin. C'est-à-dire, finalement, on pourrait dire contre Dieu lui-même. Hein. Mais mettre le temple en premier, c'est titiller quelque part l'orgueil et les intérêts des autorités. Particulièrement la classe des grands prêtres, qui, eux, s'en mettent plein les poches avec le culte au temple. Donc c'était vraiment une belle joute oratoire, tout à fait judiciaire, n'est-ce pas, que de commencer par ce qui va vraiment mettre de leur côté les autorités qui jugent. Premier argument. Deuxième argument, on nous dit « Ah, c'est contre la loi. » Donc, si tu dis qu'il est contre la loi, c'est qu'il est contre le prophète libérateur, celui qui a délivré les Israélites d'Égypte, hein, contre le législateur d'Israël, celui qui est, entre guillemets, l'auteur de la loi, celui qui est le premier chef du peuple, le vrai chef reconnu, charismatique. Le père de la nation, hein, si on veut aller un peu plus loin, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple élu. Donc c'est tout ça qui est mis en compte quand un juif entend que quelqu'un est contre la loi, contre Moïse, ça veut dire contre tout ça. Évoquer la loi, eh bien c'est un deuxième argument pour titiller cette fois-ci la classe des anciens, ceux qui sont attachés à la loi, et les scribes, ceux qui l'enseignent, voyez. Donc en deux arguments, légèrement, sensiblement différents du verset 11, eh bien, comment on dit ça en français? On assomme, littéralement. On assène un coup de massue à Étienne, et en même temps, on donne du grain à moudre aux juges, à ceux qui vont devoir juger. Et l'accusation qui est à charge, eh bien, elle déforme volontairement les propos d'Étienne, de manière à leur donner une apparence identifiable comme blasphématoire. Parce que c'est pas tout à fait faux ce qu'ils disent, mais c'est pas vrai non plus. Oui, il a parlé de la loi, oui, il a parlé du temple, oui, il a parlé du culte, etc. Mais en aucun cas, il n'a dit des insanités, des grossièretés, un manque de respect quelconque à la loi ou à Dieu. D'ailleurs, on le verra hein, quand on analysera le discours d'Étienne. Donc, tout ça, c'est une manœuvre. Bien sûr qu'il avait probablement dit, comme il le fera d'ailleurs dans son discours au verset 48, chapitre 7, 48, que le culte du vrai Dieu ne se restreindrait plus au mur du temple de Jérusalem et que la loi de Moïse avait un caractère transitoire sur plusieurs points. Pas toute la loi de Moïse, mais une partie de la loi de Moïse devra tomber. Sans doute, alors nous le savons parce que nous sommes chrétiens, sans doute en lien avec la venue du Messie d'une part, sa mort comme agneau pascal, et on sent bien que Paul a accroché à ce discours, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a accroché à ce discours, montrant en quoi le fait que Jésus soit venu modifie purement et simplement le culte rendu au temple. Bon, comme les Juifs ne se mettront pas d'accord, les Romains vont le faire en l'an 70, ils détruiront tout, et ce sera fini pour des millénaires. Donc, en cela,
il se fonde, je pense, je dis « ils » au pluriel, mais on peut dire « ils » tout court pour Étienne, quand il fait cette critique de la loi ou la critique du temple, ou en tout cas du culte tel qu'il est géré au temple, il n'invente rien. Il se fonde sur l'enseignement des apôtres et de Jésus. C'est-à-dire, il a connaissance. À défaut d'avoir été un témoin au temps de Jésus, Étienne a entendu dire que Jésus a dit par les apôtres, entre autres. Et l'enseignement des apôtres est très clair à Jérusalem depuis des mois. Donc, et ça, on retrouve cet argument hein, dans Jean 4 au verset 21, dans la bouche même de Jésus, le côté transitoire des choses. Je ne sais pas si quelqu'un l'a sous la main. Jean 4, c'était le récit de la Samaritaine, hein, dans Jean 4, oui. 31. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bon, voilà, c'est pour dire que déjà, au début de l'évangile de Jean, Jésus dit ce que les apôtres diront, et ce qu'Étienne dit publiquement fait vraiment partie de ce que Dieu souhaite, en définitive. Évidemment, nous, en tant que chrétiens, on sait qu'en plus, le vrai temple, c'est nous. Nous sommes chacun une pierre du temple. Donc Dieu habite dans ce temple. Ça paraît complètement fou quand on l'entend comme ça, s'imaginer ça. Mais on est passé donc d'un bâtiment, d'un haut lieu sacré, bien entendu, à des vies qui deviennent sacrées. Donc chacune des vies qui se tourne vers le Yeshua, le Messie, ben, devient partie du vrai temple, dans lequel un culte est rendu quotidiennement.
Et il faut quand même dire que tous ces gens qui sont devenus, disons, chrétiens, c'est pas encore le
mot. Oui, c'est pas encore le mot, mais
ne se sont pas détournés du temple.
Non.
Je pense qu'ils continuaient à les prier bien tout sûr. Le temps. Donc pour eux, c'était quand même quelque chose d'important.
Dans la continuité, en tout cas.
Oui.
Cette voie messianique est une continuité. On aurait très bien pu imaginer que le judaïsme accepte cette nouvelle voie et garde le culte au temple avec toute une partie de rites, notamment la louange, etc., etc., en abolissant la plupart des sacrifices. Évidemment, ça remettait en question l'économique. Hein. On revient toujours sur ce. C'est ça qui est un peu le nerf de la guerre dans cette affaire. Quoi.
Mais est-ce que ces gens, ça, je ne sais pas si c'est probant dans les évangiles, enfin, dans les actes, est-ce que tous ces gens qui s'étaient convertis, disons, aller au temple seulement pour prier, ou est-ce qu'ils offraient encore des sacrifices?
On a eu la question il y a quelques temps, et j'ai essayé de montrer qu'il y avait encore, effectivement, une participation au sacrifice. Notamment, on retrouvera ça dans un des chapitres des Actes avec Paul, où Paul est d'ailleurs piégé. On lui fait accompagner des gens qui vont offrir des sacrifices, donc il n'est pas contraire. Aucun des apôtres n'est contraire, même pas Paul, qui est pourtant pas un apôtre du premier cru. Voilà. Ils vont au temple, ils participent à toutes les formules rituelles. Et je pense qu'une partie, c'est pour ça que je disais qu'une partie des rites aurait pu être conservée tant que c'était une question de pardon, par exemple, d'offrandes volontaires, parce qu'il y avait des offrandes volontaires dans le système rituel, etc. Mais par contre, peut-être que le Pâques se serait fêté autrement. Il est franchement probable qu'il n'y ait plus de sacrifice d'agneau à Pâques, dans un culte rénové dans le judaïsme. Mais ça n'aura pas lieu.
Il s'est greffé là-dessus la conversion des païens,
oui,
à qui on n'a pas imposé,
exactement,
à qui on a imposé ni le temple, ni la circoncision, ni la loi.
Tout à fait. Et donc c'est peut-être aussi ça qui va poser un gros problème. On le verra aussi dans les actes, dans le rejet, en tout cas de la voie messianique, le fait que les païens, ne devenant plus juifs comme les prosélytes, mettent un peu le brin dans l'affaire, qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est pas possible. En tout cas, ceux qui sont puristes au niveau de la loi et du temple n'auraient jamais pu admettre ça. Et c'est comme ça que ça se terminera, d'ailleurs, tôt ou tard.
On a quand même l'impression que Paul accepte le sacrifice parce que, il l'a dit, je me fais à tous pour gagner
quelques
heures à Christ. Donc, qu'il soit d'accord avec le sacrifice, peut-être pas, mais en tout cas, il se fait. Il se fait pour gagner les âmes à Christ.
Mm-hmm. Je pense qu'au départ, ils continuent tous, effectivement, très volontiers, à offrir les sacrifices. Voilà, ça ne leur pose aucun problème. Et là où les choses pourrait poser problème, c'est quand tu creuses les paroles de Jésus, si tu es disciple de Jésus, et que tu dis, ben, Jésus a quand même dit qu'il fallait arrêter ça. Ce n'était pas le seul lieu au monde dans lequel les hommes peuvent aboutir au pardon et au salut. Voilà. Et c'est la réalité pour des millions de gens après Jésus. Tous les chrétiens, notamment d'origine païenne, ont eu la chance d'être pardonné, d'être sauvé, d'être changé, transformé, sans ce passage par les rites du temple. Donc on peut comprendre, ça aurait été tout à fait possible de trouver un mix entre les deux, pacifique.
C'est logique aussi, puisqu'ils veulent s'étendre. Donc il y en a qui est nettement plus loin, du point de vue du temple. Donc ils ne seraient pas allés au temple pour... être pardonné.
Ben, plus tu vas dans les contrées du monde, plus il aurait été difficile de venir chaque année à Jérusalem.
Ben, de toute façon, ça doit
sauf aujourd'hui, mais
ça doit quand même très difficile de tout lâcher d'un coup, presque, parce que Jésus est venu 33 ans seulement. Mm-hmm. Et ils ont une tradition de centaines et de centaines d'années. Mm-hmm. C'est compliqué de couper avec la tradition, quoi. Mm-hmm. C'est ancré en eux. C'est compliqué de changer une façon.
C'est pour ça que je vous avais dit une fois, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une culture. Et bien sûr, quand tu heurtes une culture en disant « Ah, il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ta culture, il faut changer ça, il faut changer ça », ça ne se fait pas. Ça se fait pas en une génération, déjà, mais encore moins si on reçoit ça comme une provocation. Au contraire, c'est la défensive, c'est le retour à l'orthodoxie, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas l'ouverture.
C'est sûr.
Enfin, voilà.
Et donc, comment ça se fait que les Juifs n'ont pas reconstruit le temple? Parce qu'ils étaient trop peu nombreux?
Et parce que, surtout, ils ont été virés dans tout l'Empire. Mm-hmm. Donc, il n'est resté pas grand monde à Jérusalem après 70. D'ailleurs, il est resté, au travers des millénaires, chaque fois une poignée à Jérusalem. Mm-hmm. Très peu de Juifs. Quand tu penses presque pendant 2000 ans, il y a toujours eu une présence juive, mais il n'y a jamais eu une majorité.
Mm-hmm. Non.
Loin de là. Et quelques juifs pieux qui allaient à Jérusalem.
Mais donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconstruit.
Sans compter que si on voit au niveau archéologique, c'est assez intéressant de le voir à Jérusalem, mais les Romains ont tout détruit. Tout. Il ne restait pas une pierre. Tout avait été brûlé, calciné.
Tu veux boire quelque chose?
Je ne sais pas. Une bière. Non, on a presque fini, ça va aller. C'est assez impressionnant quand on voit à quel point ils ont démonté le temple, pierre par pierre. Hein.
Oui, puis après il y a eu la deuxième révolte.
Et puis il y a eu la deuxième révolte. Ça,
c'était
plus rien du tout. Et en plus, la plupart ont été déportés. Donc tous ceux qu'on n'avait pas zigouillés. Bien sûr, tous ceux qu'on n'a pas zigouillés sur place, brûlés, etc., on en a emporté avec.
Et on les a emportés où alors à ce moment-là?
Dans n'importe quel coin de l'Empire, comme esclaves pour la plupart. Non, c'est terrible. Donc, notre texte est presque terminé.
C'est quand même fou, hein, si on y réfléchit bien. Dieu était avec son peuple, présent, dans la nuée, dans le feu, marchant avec le peuple.
Quotidien.
À un moment donné, pour rassurer le peuple, il a fallu un temple, il a fallu un lieu, parce que le peuple a aussi demandé un roi. Et... parce que le peuple, et on est encore comme ça maintenant, parce que le peuple voulait toucher, en quelque sorte, voir.
Exactement.
Et concevoir Dieu avec nous, devant nous, à nos côtés, c'est très compliqué. Et on a besoin de palper. Et par la venue de Christ, là on a vu, mais avec son royaume qui éclate comme ça dans le monde entier, par le Saint-Esprit, c'est finalement le retour de ce que Dieu faisait avant, c'est-à-dire être présent avec son peuple, en permanence. Donc, ça a tendance à dire que c'était une période transitoire, que Dieu a dit, ok, vous voulez un lieu, vous voulez un roi, vous voulez quelque chose de tangible, de palpable, mm-hmm. vous l'aurez. Mais le plan de Dieu, c'est d'être toujours avec son peuple. Oui. Non visible, parce qu'on ne peut pas le voir et vivre. Mais,
je trouve que c'est des fois pour nous aussi. Hein.
Et c'est comme ça pour nous aussi.
On sait que Dieu est là, celui qui nous a guidés jusque maintenant, où on est arrivé, mais il y a des moments où on se demande où est Dieu. Quoi.
Tout à fait.
Combien de fois on peut aussi, par l'église, le bâtiment, dire c'est la maison de Dieu et attribuer à cette maison une importance qu'elle a, qu'elle n'a pas, mais parce que Christ n'est pas dans une maison faite de main d'homme, mais il est en nous maintenant, en Christ.
Ouais, ouais.
Mais bon, l'Église peut témoigner de Dieu. C'est un bâtiment, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais parfois, on dépasse cette impression que Dieu veut donner, qu'il est plutôt là avec nous. Et pas dans quelque chose de visible qui le représente, qui représente son peuple. C'est quand on y réfléchit.
Je pense que quand on dit ou qu'on croit que Dieu est présent dans un lieu spécifique, que ce soit une église, une chapelle, enfin ce qu'on veut, on n'est pas dans le bon par rapport au texte biblique. Alors, je ne dis pas qu'il faut insister sur le côté nous, temple du Saint-Esprit, mais. Je pense qu'il faut concevoir que si Dieu est Dieu et qu'il veut s'adresser à l'ensemble de l'humanité, il ne peut pas être contenu quelque part. Et d'ainleurs, le temple, c'est une mainmise sur Dieu. Et la preuve, c'est ce qui en a découlé, les rites, le paiement, l'argent, tout ce qui en rencontre. Donc, c'est une mainmise sur Dieu. Heureusement pour Israël, le prophétisme a existé. Heureusement. Parce que les prophètes se sont opposés autant au temple qu'au roi. Donc quand le temple déconnait, les prophètes le disaient, et quand les rois déconnaient, les prophètes le disaient. Mais, pourtant, ils risquaient leur peau aussi. Hein. On sait que certains sont morts, d'ailleurs, pour ça. Donc, on voit bien que Dieu, à la fois, a toujours voulu être proche, à la fois entérine les choix de l'homme, tout en les remettant en question avec l'histoire, donc sur la durée, il arrivera quand même à ses fins, le Christ, entre autres, etc., mais je peux prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec le temple, ça va peut-être nous aider à comprendre, mais l'entrée en Canaan. Si vous lisez les textes qui précèdent l'entrée en Canaan, Dieu leur dit, vous allez entrer en Canaan, je vous offre, attention, hein, c'est un cadeau, je vous offre le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et eux, ils disent, pas tout de suite, hein. Ouais. Pas maintenant, ils sont trop forts. Il y a des géants, il y a toutes sortes d'excuses pour ne pas y entrer. Et alors après, Dieu leur dit, débrouillez-vous. Vous ne voulez pas maintenant, vous devrez vous débrouiller pour y entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dû faire la guerre. Au lieu d'entrer pacifiquement en Canaan, comme sur un tapis rouge, ils ont dû batailler. Oh, ce n'était pas des grandes guerres, c'était quelques cités. Donc, il faut penser qu'à l'époque, il y avait des rois pour une toute petite ville. Hein. Donc, un peu comme en Afrique, dans certains villages maintenant, hein, certaines régions. Donc, pour quelques centaines, milliers de personnes, il y avait un roi. Alors oui, les grandes villes, Jéricho, etc. Mais ils ont dû se battre. Et Dieu a encore été sympa. Je pense à Jéricho. Dieu a quand même souvent aidé pour qu'ils gagnent contre les autres. Mais c'était quand même une effusion de sang totalement inutile. Un manque de foi pour dire les choses. Et donc on voit que Dieu accepte la volonté de l'homme parce qu'il sait que lui, il a un plan. Et il sait où il va. Nous, on ne le sait pas. Israël ne savait pas. Mais en entrant en Canaan, il réalise, même si c'est avec l'épée, il réalise quand même la volonté de Dieu. Mais ils doivent purifier l'espace parce qu'ils n'ont pas cru. C'est dingue quand tu y penses. Et on pourrait reprendre plein d'exemples comme ça dans la Bible, où Dieu dit, ah bon, c'est comme ça, ok les gars, on va faire autrement.
Et puis par les prophètes, le temps normalement était accessible aux étrangers,
oui.
Et ils avaient mis des plaques comme quoi c'était inaccessible. Et...
En tout cas, l'espace sacré, ça c'est clair. Peine de mort hein, pour y entrer.
Et... Moi je connais un moine qui lui pense que Dieu s'est incarné à cette époque-là, justement, principalement à cause de cela. Quoi.
Ben, en tout cas, on ne pouvait pas avoir pire comme contexte entre la domination de Rome, d'une part, et un faux culte et une fausse prêtrise qui dirige Israël. Voilà, je crois que c'est le bon moment, effectivement. Alors, c'est le bon moment pour des tas de raisons. Il faut balayer tout ça. Mais c'est le bon moment parce que quelque part, si ce n'était pas au temps de l'Empire romain, avec tout ce que je vous ai déjà dit, les voies de communication, les possibilités incroyables de voyage à cette époque-là, parce que c'était la paix partout, l'Évangile aurait mis beaucoup plus de temps à se répandre. Donc tout coïncidait super bien. Il y a un temps, une heure, et Jean dit ça. Hein. Il dit souvent l'heure n'est pas venue quand, en parlant de Jésus. Ben, c'est ça. Il y a une heure, le Père le sait, il sait quand, et puis il fait. Et il fait avec ou sans les hommes. Ou il rattrape même les bêtises des hommes pour faire en sorte que... Voilà.
Toujours maître.
Voilà, exactement. Il tient le monde dans ses mains, la destinée du monde. Alors, un petit dernier mot alors, pour le verset qui nous reste. On a encore lu le temps. Donc, je passe sur les autres arguments avec Jésus qui détruirait le temple. Alors, c'est assez rigolo. Là aussi, ils l'ont zigouillé. Donc on voit mal comment, c'est vraiment le genre de témoignage ridicule, quoi. Hein. On dit, ah mais oui, Jésus le Nazoréen, il va venir détruire le temple. Mais enfin, on l'a bousillé, le gars. Normalement, pour eux, il est mort, puisqu'ils ne croient pas à la résurrection. Donc qu'est-ce que c'est que cet argument? Et alors, ils voudraient modifier les règles que Moïse nous a transmises. Bon, je passe là-dessus, ce n'est pas important, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de toutes ces attaques. Je voudrais finir avec le verset 15. Alors, on nous dit, et je relis, tous ceux qui siégeaient, donc les membres du Sanhédrin, avaient les yeux fixés sur lui, et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Bon, quelle que soit la traduction, on a tous bien compris qu'il y a quelque chose de bizarre quand même dans ce verset. Alors, le verbe « fixer les regards sur », c'est « regarder attentivement », évidemment. Hein. Alors, imaginez les 70 là, qui sont tous regards dirigés vers Étienne. Pourquoi, d'après vous? Pas parce que son visage est un visage d'ange. Hein.
Son assurance.
Il le regardait par rapport à son calme, par rapport à la non-riposte. En tout cas, on ne lui a pas encore donné la parole. Hein. Par rapport au fait qu'il voulait mesurer si ces graves accusations de blasphème, hein, donc de mort, pouvait le conduire à la mort, est-ce que ça a un effet sur Étienne? Apparemment, nullement.
Donc, il n'y a qu'à vérité qui blesse, et il n'est pas blessé.
Ah, il ne se sent pas concerné par toutes ces accusations, et d'ailleurs on le verra dans le discours. Est-ce qu'elles ont fait mouche au point d'ébranler Étienne, de le décourager, de renier son maître? Point du tout. Absolument pas. Non, alors du coup, ils sont tellement accrochés pour voir s'il va faillir, s'il va... Ouais, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on lui a réglé son compte, qu'ils se rendent compte tout d'un coup que ce gars n'a pas un visage normal par rapport à ce qu'on vient de lui asséner. On lui promet la mort et lui, il a l'air tout serein, paisible, surnaturellement illuminé.
C'est eux qui sont déstabilisés.
Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est un visage d'ange.
Mais on dit souvent qu'un enfant, il a un visage d'ange, tu vois.
En tout cas, c'est certainement une question...
C'est de l'innocence, non ?
De sérénité, c'est sans doute un regard particulier.
Rempli d'amour.
Mais bibliquement, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire ?
Mais ceux qui ont été chez Abraham,
il y a plusieurs exemples.
Okay.
Ceux qui sont envoyés. Puis avec Tobie.
On va en donner quelques-uns, si vous voulez. Donc, pour l'évangéliste, car rappelons-nous que c'est l'évangéliste, lui, qui écrit ses propos, et pour ses contemporains, donc pour le juif banal, lambda, qui n'est pas de la voie messianique, quelles références peuvent venir en écho? Parce que dire ça, c'est dire que c'est quelque chose que les Juifs peuvent reconnaître. Oui. Avoir un visage d'ange, c'est pas n'importe quoi. Et on se souvient que justement, celui dont on dit qu'il attaque Moïse, hein, c'est Moïse, le premier qui a un visage complètement illuminé. Et en quelles circonstances ?
Descendant la montagne.
Oui, exactement. Après un face-à-face, enfin, si je puis dire, avec Dieu. En tout cas, une proximité, une intimité avec le vrai Dieu, avant même qu'il soit le Dieu d'Israël. Hein. On a aussi des textes, je pense à Nombre 6, 25. Alors ça, c'est dans Exode 34, hein, ceux qui cherchent le visage de Moïse, 34, 30. Relayé d'ailleurs par Paul dans 2 Corinthiens, étrangement, j'ai vu la référence, 2 Corinthiens 3, 7, où il reparle de cette histoire de Moïse. Mais il y a un autre texte intéressant dans la Torah, c'est dans Nombre, chapitre 6, verset 25. Nous connaissons bien ce verset. « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi » et qu'il t'accorde sa grâce. Si ça colle pas à Étienne, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais pour moi, c'est clair que c'est son intimité à Dieu, sa confiance en Dieu, même sa confiance que même si on le tue, ça ne va rien changer à la nouvelle voie, à l'évangile, etc. Et que c'est quand même Dieu qui gagnera au bout du compte. Donc, dans Nombre 6, c'est ça que tu cherches ? 6, 25 ? J'aime bien ce propos, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, hein, comme si c'était un reflet. Nous étions un reflet de la proximité ou de la présence de Dieu. Et puis il y a un texte que j'ai découvert, je ne me rappelais pas, dans Ecclésiaste aussi, au chapitre 8, verset 1, très intéressant et qui peut aussi coller très bien au personnage d'Étienne, « Qui est comme le sage ?» Et qui connaît l'explication des choses ? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Incroyable, quoi. Donc, ce que Étienne est en train de vivre, lui, pendant que tous les autres lâchent leur vomi, leur poubelle, etc., leurs mensonges, moi, je suis avec Dieu. Moi, je suis serein. Je risque rien. Non pas qu'il croit qu'il ne va pas mourir, parce qu'il sent bien que c'est mal embarqué. Hein. Et alors on a aussi dans les psaumes, un texte qui revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, deux fois dans le psaume 80, verset 3 et verset 7, on trouve cette expression « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Ça, je trouve aussi pas mal, quoi. Alors, est-ce que tous les auditeurs, enfin, c'est quand même les instruits, ceux qui siègent au Sanhédrin, ont été capables de se souvenir au moins d'un de ces textes, notamment de Moïse, justement, puisque c'est Moïse qui est en jeu dans leur histoire. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui ont dû se dire, bon, il n'a pas son visage, là, c'est pas naturel. Hein. Il y a quelque chose qui nous revient en boomerang, à notre vomi, et c'est pas nécessairement du bon. Et alors, bien sûr, on ne peut pas, nous, chrétiens, oublier le texte qu'on retrouve dans les évangiles, Luc 9, par exemple, 29, ou Matthieu 17, 2, quand il nous est dit, pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Ça, c'est le récit de la transfiguration. Comment ne pas, en tout cas pour les chrétiens, ceux de la voie messianique, en lisant Luc ou en entendant Luc, comment ne pas se souvenir de ça ? Que ça fait partie de l'identité. Être disciple de Yeshua, c'est briller comme lui. C'est quelque part avoir une aura. C'est pas juste, on est là, et puis, hein, comme disait Jésus, vous êtes le sel de la terre. Donc voilà des éléments qui nous montrent, en tout cas, chez Étienne, une autre dimension qu'on n'avait pas encore vue, c'est la confiance. Paisible, dans son devenir. Et il se doute, parce qu'il n'est pas fou, Étienne. Il se doute que la sentence risque très fort d'être la mort. D'accord ? Alors, dans ces textes-là, ressortent que l'illumination du visage, hein, comme un ange, peut être le signe à la fois d'une sagesse ou la marque d'une intimité avec Dieu. Notamment au cours de la prière. On peut même se demander si Étienne ne priait pas intérieurement pendant que des versets. Il sait très bien que c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc voilà, il s'en fout. Et il leur répondra quand on lui donnera la parole, parce que ça, c'était une obligation. Donc, le fait qu'il soit interrogé après, lui disant ben, « qu'est-ce que tu as à dire par rapport à toutes ces accusations ?» en espérant bien qu'il dise « non, c'est pas vrai, non, je retire tout ce que j'ai dit. Non, j'ai jamais dit que, tu vois. Non, non. » Lui, il va attaquer hein, dans le discours. On verra que ça fait aussi partie de sa sagesse, tout ça. Donc, Étienne était empreint de sagesse, intime de Dieu, mais le Sanhédrin ne fait pas cette analyse. Et même s'il l'avait fait, certains d'entre eux, ils n'en tiennent pas compte, préférant croire aux mensonges auxquels ils participent eux-mêmes. Parce que c'est une farce, ce procès. Un peu comme les farces staliniennes ou hitlériennes, je veux dire. Quelque part, on juge des gens innocents en leur disant « c'est les pires des criminels, et il faut les exterminer ». Incroyable, quoi. Alors voilà, la prochaine fois, on attaquera le 7e chapitre. Alors vous imaginez bien qu'on ne pourra jamais faire en une soirée 53 versets de discours de Étienne. Donc on va sectionner en plusieurs parties, peut-être trois ou quatre parties, le discours d'Étienne. La prochaine fois, on essaiera d'attaquer les versets 1 à 16 à peu près, pour voir un peu le début de son discours. Au fond, Étienne va plus ou moins suivre les accusations, c'est-à-dire, vous avez dit que j'étais contre la loi, vous avez dit que je suis contre le culte, et il va un tout petit peu répondre à ces différentes choses, tout en rajoutant une couche. C'est-à-dire qu'il va pas prendre de gants, et il va pas non plus essayer de les amadouer. J'ai même l'impression, en lisant ce discours, qu'Étienne... Oui, exactement. Que lui, ce qu'il croit, c'est la vérité, c'est l'évangile, c'est Jésus et Dieu comme maître de l'univers. Et il n'a pas peur d'eux. Nullement, comme on le verra au moment de son martyre. Lui, il continue, il fait sa petite prière. Terminé. De quoi peut-être nous... Enfin, dans les applications, la prochaine fois, de quoi peut-être nous faire réfléchir à nous-mêmes. Comment nous vivons les épreuves, les difficultés, les oppositions, dans quel état ça nous met ?